Ça passait vite ce temps de louange, je suis étonné. Je me suis dit que... Moi aussi. Super, merci. Alors, merci infiniment de m'avoir invité ici. Je vous salue tous très cordialement au nom de la mission chrétienne pour les pays de l'Est. J'apprécie être parmi vous. Je sens cet esprit familial, de charité les uns envers les autres. Ça me fait très plaisir. C'est comme ça qu'on me disait autrefois, regardez comme ils s'aiment. Hein, ça se sent, ça. C'est magnifique. Et puis aujourd'hui, ben, c'est un culte missionnaire, donc... Vous allez peut-être ressentir un peu ce que des chrétiens vivent dans les pays de l'Est. Mission chrétienne pour les pays de l'Est, j'y travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis je m'appelle Eric Pfammater. Qu'est-ce que je fais à la mission chrétienne pour les pays de l'Est? Eh bien, je suis représentant pour la Suisse romande. Et je fais ça avec beaucoup de cœur et de motivation parce que quand j'étais sur place dans les pays de l'Est, j'étais très touché de la situation sur place. C'est vrai, il y a des choses tragiques, mais il y a aussi des choses très encourageantes. De voir comme l'Église grandit. Et l'action Paquet de Noël est une action qui a porté ses fruits, je peux dire, et qui a ouvert des portes aussi. Quand je discutais avec le pasteur sur place en Moldavie, au mois de décembre, il m'a dit, ces dernières 2 ans, il y a 2 églises qui ont vu le jour. C'est quand même fantastique. Parce que, aussi, une chose, ils vont vers les gens. Et avec les enfants, tous les enfants, les adultes, ils vont visiter les familles dans leur village et ils les serrent. Alors, Eric Pfammater, d'où ça vient? Ça vient du Valais. Pfammater. Mais je grandis dans le Valais romain. Et à Sion, pour être précis. Et puis autour des 20 ans, je suis parti en Suisse allemande pour apprendre l'allemand. C'était pas trop loin du Valais. Pour un Valaisan, il ne faut pas que ça soit trop loin, autrement il... Je suis marié avec Erika, ma femme. J'habite à Kirchdorf. C'est mieux comme ça. Et puis j'ai 2 filles, Florence qui a 16 ans et Salomé qui a 14 ans. La mission chrétienne pour les pays de l'Est se trouve à Vorbe. Je ne veux pas faire une grande discussion de tout notre travail, mais c'est assez simple. C'est 3 piliers. D'abord, mettre fin au trafic des femmes et des enfants. Ça, c'est... Mais ce n'est pas venu tout de suite. Ça. Il faudrait bien comprendre, ceux qui ne connaissent pas la mission chrétienne pour les pays de l'Est, vous devez savoir que tout au départ, la mission avait pour but d'apporter de la littérature, des bibles, dans les pays de l'Est. Qu'est-ce qui se rappelle encore de cette période-là? Il y en a pas mal. Hein, après, le rideau de fer s'est ouvert, les pays de l'Est se sont ouverts, plus ou moins. Hein, et on a pu imprimer des Bibles sur place. Et après, il y avait une grande faim spirituelle. Mais il y avait aussi une grande pauvreté. Dans les différentes révolutions qui ont eu lieu, les transformations... Beaucoup a été saccagé, l'économie était à zéro. Et donc, voilà, c'était... Après, il fallait aider nos frères dans les pays de l'Est, mais pas seulement nos frères, aussi les autres. Parce que qu'est-ce qu'on veut être comme un témoignage chrétien si on va seulement aider nos frères dans les pays de l'Est? Donc, je tiens à le préciser, notre témoignage, c'est d'apporter aussi de la nourriture à ceux qui ont faim, qui ont soif. Voilà, après... donc, ce qui s'est développé ensuite, c'est l'entraide, donc distribution de vêtements et d'aliments. Dans une 3e phase, on a, avec toutes ces relations que nous avons eues avec les personnes pauvres, on peut dire ça comme ça, eh bien, on a remarqué que beaucoup de mamans ou d'enfants disparaissaient. Et on sait qu'il y a tout un trafic d'organes, trafic de femmes qui se développait, et ça... avec une telle ampleur, et en voyant toutes ces femmes de Roumanie, de Moldavie ou de Hongrie ou de Bulgarie qui venaient ici en Suisse, on a été encore plus touchés par ce phénomène. Et on a vraiment commencé à faire quelque chose, à se spécialiser là-dedans, en tirant parti de nos relations sur place dans les pays de l'Est. J'ai eu l'occasion hier d'aller à une conférence Stop Pauvreté. Qu'est-ce qu'il y en a entendu parler ? Voilà, quand même quelques-uns. Et j'étais très encouragé. Le thème, c'était « Contre la traite des femmes et des enfants ». Et il y avait 600 personnes qui étaient là. Et puis, donc la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a parlé. Et je crois qu'elle est vraiment aussi derrière nous. Et nous sommes derrière elle pour la soutenir. Il faut soutenir les politiciens qui font des initiatives pour changer quelque chose. Il y a un plan d'action contre la traite d'êtres humains 2012-2014 qui existe maintenant. Et on sent que ça bouge maintenant. Et ça commence, la machine se met vraiment en marche. Alors il faut le soutenir. Et pour ça, on a créé un réseau de prières à laquelle participent environ 1000 personnes actuellement dans toute la Suisse, spécialement contre la traite d'êtres humains chaque 2 mois. Venez vous inscrire chez moi à la sortie si vous êtes intéressé. La croissance, soutenir la formation et l'économie de proximité, l'idée c'est de créer des places de travail sur place, comme un cas précis qui a eu énormément de succès, c'est la Roumanie, avec environ 10 000 places de travail créées maintenant en l'espace d'une quinzaine d'années. Donc ce qui est alimentaire, on les achète sur place, et après on distribue des sacs ou des cartons d'environ 18 kilos de nourriture chaque mois, mais c'est ciblé seulement pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Et puis, chaque hiver, on fait une action 400 tonnes de pommes de terre, parce que maintenant, depuis de nombreuses années, il y a eu des mauvaises récoltes, les pommes de terre, ils ne peuvent pas les garder longtemps, enfin, il y a tout un tas de problèmes. Donc, on achète dans les pays limitrophes, et puis ceux qui veulent participer, on a aussi une information à la sortie. Pour vous informer sur les pays dans lesquels nous sommes présents, pour ne pas m'étaler là-dessus, parce que j'aimerais rester spécialement sur la Moldavie et les paquets de Noël, je vous propose de prendre, on a une édition du 40e anniversaire, une revue verte, et puis là vous pouvez voir notre travail, ce qu'on a pu faire, je dirais grâce à vous. Vous êtes donc votre église, avec ses membres, certains un petit peu plus, d'autres un peu moins. Vous avez participé aussi à une partie de tous ces projets et je tiens à vous remercier, chacun de vous. L'arrivée des paquets à Bôle, alors un exemple des paquets de Noël, c'était la 17e action paquet de Noël. La dernière action, l'avant-dernière action, 86 400 paquets de Noël. En 2012, 87 300. 2013, ça commence au mois de novembre. Hier soir, encore à 7h soir, samedi, on a encore un petit bus qui arrive à Avord. Déjà, il avait déjà pris les paquets. Donc, certains m'ont dit, mais non, on a remarqué que ça marche mieux quand on met les cartons à disposition. Alors, c'est toujours le problème de trouver les cartons. Hein. Je vois. Joindre nos forces pour un but commun, on n'est pas tout seul. 4 organisations, l'IRTIM Osten qui est connue en Suisse allemande, le CACP à Safnern, l'aide aux églises dans le monde à Thun et puis la mission chrétienne pour les pays de l'Est à Vorbe. Alors, c'est quelqu'un qui a à cœur de donner des peluches impeccables, qui contrôle chaque fois que les yeux sont là, qu'il y a rien, que tous les bras sont également là. Parce que si on fait un cadeau à un enfant avec une peluche qui est à moitié tordue, ça ce ne sera pas la même chose. Et on apporte les paquets ensuite de ça ici à Tolochena. On remplit les camions et ces camions vont partir après dans les pays de l'Est. Il y a pour la Suisse romande 2 camions qui partent directement depuis Friderici à Tolochena. Il faut 26 semi-remorques. Vous n'avez jamais pensé, hein? 26 semi-remorques. C'est absolument fait. Imaginez-vous les camions les uns à côté des autres. Donc c'est toute une infrastructure. Et ce qui veut dire qu'on peut, avec ce volume de paquets de Noël, on peut distribuer dans 7 pays. Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Serbie et l'Albanie, on ne dessert pas le Monténégro cette année. Ce qui nous intéresse aujourd'hui spécialement, c'est la Moldavie. Vous avez ici le drapeau de la Moldavie. En Moldavie, on parle le roumain, sauf une partie tout à l'est, en gris, que vous voyez sur la carte. Je ne sais pas si c'est mieux d'éteindre les lumières là-bas, peut-être qu'on verra mieux. La partie en gris, ce que vous voyez, c'est la Transnistrie. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu une guerre de sécession, et puis dans toute cette partie grise, il y avait toutes les industries, des grosses usines et tout ça. Eh bien, c'est tout cela qui manque, en fait, maintenant au reste de la Moldavie. Et c'est pour ça qu'une des priorités en Moldavie, c'est de créer des places de travail, donc d'aider ce pays à se relever au niveau économique. Vous avez l'Ukraine, qui est juste en haut, et puis en dessous de la botte de la Moldavie, et puis la Roumanie, donc à l'ouest. La Moldavie, comme grandeur, superficie, elle fait à peu près les trois quarts de la Suisse. Et puis au niveau de population, c'est à peu près la même chose. En Moldavie, vous avez environ 5 millions d'habitants. Mais il n'y a personne qui peut dire combien il y a d'habitants vraiment. Sur les 5 millions d'habitants, vous avez 1 million au moins qui part à l'étranger. Les deux tiers partent, disons, officiellement, et puis un tiers partent donc au noir. Quelques mots de roumain. On va tester vos connaissances. Alors, Multumiesc, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ben oui. Et puis, la Revedere. Mais vous êtes des champions. Cum te chiamé? Ben, je n'ai plus rien à vous apprendre. Maintenant, quelque chose de plus dur. Bon, ceux qui savent le roumain, vous vous taisez. Poftabuna. Voilà. Là, vous êtes des champions. Et puis maintenant, un mare multumiesque pentru pachetele de creațion. Non, vous êtes les premiers à avoir trouvé tout ça d'un coup. Bravo, hein, vous êtes des champions. Alors là, vous avez le Parlement, la ville de Chișinău, qui compte environ 800 000 habitants. On peut dire qu'entre 30 et 50% des habitants en Moldavie vivent en dessous du minimum existentiel. En Moldavie, vous avez sur 10 personnes, seulement 3 personnes qui ont la télévision. C'est aussi un indicateur. Vous avez souvent dans les pays qui sont très pauvres, vous avez la télévision qui est quand même là, malgré tout. Des fois, on trouve dans les régions les plus pauvres une télévision. Mais là, malgré tout, vous voyez qu'il y en a seulement 3 personnes sur 10 qui ont la télévision. La pauvreté est très présente. Il y a un exode des villages vers les villes. Les loyers peuvent coûter en ville 10 fois le prix qu'on paye dans les campagnes. Puis encore dans les campagnes, vous pouvez avoir encore plus facilement un jardin qui permet de subvenir un peu de nourriture, quoi. Et le problème, c'est de pouvoir survivre dans le milieu urbain. Un exemple ici pour la Moldavie. Toutes ces taches brun foncé que vous voyez sur la carte, ce sont les villages dont plus de 75% des ménages n'ont pas l'eau courante. Il fallait chercher l'eau au puits. Puis après, vous prenez encore celles qui sont oranges. Ce sont tous les villages qui ont des ménages. Enfin, il y a 50% des ménages qui n'ont pas l'eau courante, qui doivent aussi aller chercher l'eau au puits. Vous imaginez après toute la complication pour laver le linge, laver la vaisselle, n'en parlons pas. C'est, de toute façon, c'est laver la vaisselle, il n'y a pas de machine à laver la vaisselle, c'est clair. Une hospitalité que j'ai remarquée dans pratiquement tous les pays de l'Est et en Moldavie, la même chose. Malgré des maisons qui vivent avec des budgets très bas, ils vous remplissent la table. Des fois, on n'a même pas de place pour sa propre assiette. Puis quand on a fini un plat, ils ramènent un deuxième. On ne sait pas d'où ils viennent, tout ça, ces plats. Les routes, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des routes. Certaines routes, on ne pouvait pas continuer avec le bus et les paquets de Noël, il fallait les distribuer à pied. On va visiter les familles dans les différents villages. Ici à Drotia, Petrovka, Simislia, Tintareni, Choburciu et Slobodeja. Et ça, c'est les visites que nous avons faites sur place, peut-être en l'espace d'une semaine. Mais sachez que encore beaucoup plus de villages sont touchés grâce à cette action Paquet de Noël. Une première famille. J'aimerais vous prendre avec moi aujourd'hui, aller dans des familles moldaves, mais c'est des familles moldaves spéciales. Parce qu'elles ont pris chez elles des enfants. Ces enfants, ils font partie des 5000 enfants qui vivent encore dans les foyers de l'État. Et l'État, plus des organisations internationales, dont nous ne faisons pas partie, ont organisé un programme pour fermer tous les foyers de l'État. Et ces enfants, ils vont aller des maisons de transit pour 6 mois. Et puis après ces 6 mois, eh bien on essaye de les dispatcher, si possible, dans la famille d'origine, ou chez un oncle, ou chez une tante, ou chez une grand-maman. Et puis, il y aurait quelqu'un qui serait là, qui devrait superviser, qui devrait regarder. Mais dans la réalité, puisque nous, on connaît bien les gens sur place, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, les enfants se retrouvent dans la rue. Et on a déjà, je crois qu'on m'a dit que vous avez vu le DVD de Philippe de Courroux. Et il y a un pasteur qui parle justement de ce cas-là, c'est très bien expliqué. Je ne veux pas prendre trop de temps pour ça, mais sachez que dès maintenant ces 6-7 dernières années, vous avez des milliers d'enfants qui ont disparu, soit pour la prostitution, pour le trafic d'organes, et puis une partie aussi, quand la Roumanie est venue dans l'Europe, beaucoup d'enfants ont pu être nationalisés roumains, parce qu'ils avaient quelqu'un de la famille qui était roumain. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes, pour ces familles qui prennent chez eux des enfants, malgré des conditions relativement précaires. Alors, ici, c'est à Tintareni. Quelques photos de l'environnement, de là où elle habite, Melania. Elle s'appelle Melania. Elle fait la cuisine pour le home pour personnes âgées et le centre de jour pour une cinquantaine d'enfants. Je vous montrerai tout à l'heure. Estera, c'est sa petite fille. Pourquoi elle vit chez la grand-maman? Durant toute l'année, tout le temps, elle est toujours chez elle. Parce que sa maman va travailler en Israël. Elle voit sa maman juste 2 ou 3 fois par année. Et on a des témoignages d'enfants qui n'ont pas vu leur maman depuis 6 ou 7 ans parce que la maman est partie au noir travailler dans les ménages en Autriche. Et puis elles n'osent pas revenir, autrement elles risquent de se faire attraper. Puis après, c'est très très problématique. Donc on sentait, elle se réjouissait de voir ce qu'elle avait reçu comme paquet de Noël, mais on sentait aussi une tristesse vis-à-vis de sa maman, parce que je crois que son plus grand plaisir aujourd'hui, enfin je veux dire, le jour où on a amené ses paquets de Noël, serait de pouvoir partager sa joie avec sa maman. Et puis à ce moment-là, elle s'est rendue compte que sa maman n'était pas là. Ça va. Alors lui, il était dans un foyer pour enfants. On ne sait pas quel âge il a. Il a été simplement amené une fois dans un foyer pour enfants. On ne savait pas son anniversaire, naturellement, donc on ne fête pas les anniversaires dans les foyers pour enfants. Alors, Mélania l'a dit, quand tu viens chez nous, on va fêter l'anniversaire à ce moment-là. Elle a fait la première fois de sa vie, de Sava, elle a fait un anniversaire, elle a invité tous ses copains, les copines, Elle a fait des bons gâteaux, elle a mis des guirlandes et des ballons un peu partout. Elle a fait vraiment une fête. Et c'était son premier anniversaire, il avait 10 ans. Il y a aussi Christy, lui il a 12 ans. Alors Christy, lui, il commence à jouer de l'accordéon. Inutile de vous dire qu'il aime bien les bonbons et les chocolats. Et ils s'entendent très bien tous les deux. Ils viennent du même foyer pour enfants. C'est très important pour l'enfant qui n'a plus de parents, plus de réseau social, d'avoir au moins une personne de contact à qui on peut régulièrement parler, partager ses joies et ses peines. Et c'est le cas ici avec Mélania. Elle a même fait une remarque que Sava était quelqu'un de très ordonné, il faisait son lit de façon impeccable. Enfin, on sent que vraiment ils sont très à l'aise et heureux. On va aller maintenant à Drochia. On va visiter un sanatorium. C'est un internat qui fait office également de sanatorium. Ça veut dire, on peut dire une sorte d'hôpital ou de maison de soins pour des enfants. Le 80% des enfants qui sont là, d'ailleurs, ce foyer pour enfants, il est dans un état catastrophique. Il y a des champignons sur les murs, enfin bref. Le problème, les budgets de l'État ne suffisent pas pour rénover ces foyers. Et on a visité cette directrice de foyer. C'est avec les larmes aux yeux qu'elle nous a dit qu'elle a dû congédier tous les employés. Ça fait partie du programme de l'État de fermer justement ces foyers pour enfants. Et si quelqu'un s'oppose à cela dans les séances de ministère, eh bien, il est congédié, il peut rentrer à la maison, et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend sa place pour continuer ce plan qui est mis en route déjà depuis un certain temps par des technocrates qui n'ont aucune idée de la situation sur place, dans la pratique et dans la rue. On a visité ensuite Nadesha et Grégory Droutchok, ils ont 3 enfants. Et quand ils ont entendu parler de ces enfants qui se retrouvent dans la rue, de ces foyers qui ferment, ils ont été très touchés par cela. Et puis, ils ont pris 4 enfants. Pourquoi ? Parce que c'est 4 frères et sœurs. Ces 4 frères et sœurs, ben, ils habitent à Petrovka. C'est Eugenia, Cataline, Danou et Martiel. Ces 4 enfants, ils ont été pendant 3 ans dans un centre de réhabilitation. Tellement ils ont vécu des choses difficiles au niveau familial. Il y avait des problèmes d'alcool, des problèmes d'être battu, mais aussi d'être laissé. Par exemple, Martial, il restait des fois pendant des heures assis dans la neige tout seul. Il avait 3 ans. Et donc, c'est des voisins qui ont réagi, qui ont dit « mais il faut faire quelque chose ». Et alors, pour finir, ces enfants, ils ont été d'abord dans un centre de reconvalescence. Et puis même Martial, lui, il a passé pendant 3 mois des soins bien précis. Il avait beaucoup de problèmes au niveau des poumons respiratoires. Et des médecins ont dit « mais il ne parlera pas ». Parce qu'avec, il parlait déjà pas, mais il dit mais il parlera pas parce que il y a trop eu de problèmes. Eh bien, sachez que maintenant Marcel parle même d'une voix très claire, et c'est ce que j'ai souvent vu, que ces enfants quand ils vivent l'amour, l'affection, eh bien beaucoup de choses au niveau physique se remettent en place. Et ça c'est quand même fantastique. J'ai vu même des enfants qui ne marchaient pas, et avec toute l'affection qu'ils ont reçue, eh bien, ils ont recommencé à marcher. Ça m'a fait penser un peu à cette parole quand quelqu'un vient demander est-ce que c'est toi le Messie ? Puis il dit, mais les aveugles, ils voient, et puis ceux qui n'entendaient pas, ils entendent de nouveau. C'est le royaume de Dieu qui s'est approché. Et là aussi, je vois cet amour qui est là et qui porte ses fruits. Pour ces enfants, ils ont vécu des choses difficiles, mais c'est difficile pour les parents de savoir s'en occuper. Donc ils reçoivent des séminaires, et il y a Trois fois par mois, il y a des visites, ils se rencontrent régulièrement, et puis il y a des séminaires de formation pour les parents. Une autre famille que nous avons visitée, et bon, là, je peux vous dire que ces paquets de Noël, de pouvoir apporter ces paquets de Noël, aussi avec l'accompagnement que nous avons sur place, des personnes qui sont là-bas toute l'année, ces familles, ils ne se sentent pas seuls. Et ils se sentent qu'ils ont une certaine dignité, une certaine importance à nos yeux. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça leur fait vraiment plaisir. Ils savent qu'on ne les connaît pas. Et dans les pays de l'Est, ce n'est pas connu qu'on fasse un cadeau pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, simplement comme ça. Et c'est ça le don gratuit, de donner quelque chose simplement par la grâce. Et Olga Vitali Borinsky, un couple tout à fait ordinaire, même que Vitali, il est paralysé du côté droite. Ils ont une fille de 17 ans, ils ont une ou deux vaches, ils vivent très simplement. Mais ils ont pris chez eux Ilie. Ilie, cet enfant, ce qu'il a vécu comme violence, c'était très dramatique. Je ne peux pas faire une longue histoire, mais courtement, son papa, il a été tué. Sa maman a eu un deuxième homme, il a été tué également. La maman est devenue alcoolique. Et après, sa maman ne pouvait plus supporter tout ce qui lui est arrivé. Après, quand on boit de l'alcool, on ne sait plus tellement ce qu'on fait. Et il y a eu vraiment des violences. Il était attaché des fois à la niche du chien. Il était des fois mis à la cave avec pratiquement rien à manger. Tout prenait des proportions démesurées. Et quand il avait 7 ans et demi, il a dit « je ne peux pas continuer comme ça ». Il s'est enfui de la maison et il est parti à 33 km plus loin pour aller chez sa sœur. Et sa sœur était très touchée par ce qu'il vivait et puis elle a fait vraiment le maximum, mais après elle ne pouvait pas plus. Donc pour finir, il est allé dans un foyer pour enfants. Et depuis là, ces enfants avaient la possibilité de faire passer des vacances ici et là dans notre programme de famille. Et donc ils pouvaient aller chez les Borinsky là, mais la première chose qu'il a dit, est-ce qu'ils boivent de l'alcool? Et on lui a certifié que vraiment il n'avait pas à se soucier, pas du tout. Et puis quand il arrivait sur place, le premier jour il a su que c'est là qu'il veut passer ses jours de vacances, il veut rester là. Je ne pouvais pas parler de toutes ces choses-là sans parler de ce que nous aussi, ici en Suisse, on a des problèmes au niveau de la violence. Il y a certaines organisations qui se mettent à la tâche pour informer un petit peu plus là-dessus. Il y a même un site internet qui existe, www.violence-que-faire. Il y a aussi des prospectus, peut-être certains parmi vous la connaissent. Et j'étais étonné de voir les chiffres ici en Suisse. En 2002, on avait près de 1000 femmes qui ont dû se réfugier dans un foyer d'accueil pour se protéger d'un compagnon violent. En 2010, il y a eu un traitement hospitalier ambulatoire pour 923 enfants. Et on peut dire qu'il y a eu 5 cas de décès, donc 5 enfants qui sont morts de mauvais traitements. Voyez les chiffres. Je vous les laisse lire, c'est impressionnant quand même. Et puis encore aujourd'hui, je regardais, non pas aujourd'hui, c'était il y a 2 jours, dans un journal en Suisse allemande, ils avaient également dit combien il y avait d'abus sexuels. Et donc, cette...
On n'a pas les chiffres, est-ce qu'il y a moyen de les lire?
Ah, alors oui, alors vous faites bien de le dire. Je vais vous le dire. Ah, vous pouvez, d'accord. Ok, alors, sur les donc 923 enfants qui ont dû avoir un traitement hospitalier ambulatoire, eh bien, il y a 29,4% suite à une maltraitance physique. Et après, le quart, dont 25,2% à la suite d'un abus sexuel. Et puis 13,3% à la suite d'une maltraitance psychique. 31,5% par négligence. Je peux vous dire que, suivant les statistiques, ça peut toujours aider. On a 75% de ces enfants ont de 0 à 6 ans. Ce sont les plus faibles. Ensuite de ça, 75% de ces enfants vivent dans un milieu familial ou au niveau de la famille élargie ou d'un voisin. Donc, je ne veux pas déplacer le problème de la Moldavie ici en Suisse, vous comprenez bien, mais ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, il faut ouvrir nos yeux et nos oreilles autour de nous, parce que c'est quand même flagrant que les victimes ne parlent pas. Sachez qu'une victime qui vit ces choses-là ne parle pas, elles ont honte, elles se gênent. Si on est battu par son mari ou son compagnon, on se gêne. La dignité, déjà, on a pris un coup. Et ça veut dire qu'il faut parler autour de nous. Et nous avons une grande chance ici, c'est qu'on connaît un Dieu puissant et fort et on peut prier. Et c'est ça qu'on peut proposer, la prière. Et puis après, il y a des instances qui peuvent donner un coup de main plus spécifique quand c'est nécessaire. En cas de problème, on peut parler à un membre de la famille, de l'église ou le pasteur. Et puis, ensuite de ça, pour les enfants, il y a une ligne d'aide, le 147. Ça veut dire que les enfants, s'ils connaissent des copains, des copines qui ont des problèmes, vraiment, ils peuvent leur dire, écoute, il y a le 147, tu peux parler de tes problèmes, et c'est au moins déjà quelque chose. Et pour les adultes, la main tendue, numéro 143. Je ferme la parenthèse. Et puis, maintenant, on va aller au centre, donc à Tintareni. Qui est-ce qui est responsable de l'action paquet de Noël sur place? C'est Iliko Ada. Cet homme, il a commencé il y a 20 ans, il était pasteur, il avait d'une église à peu près 70 membres. Il venait d'être pasteur, et c'est à ce moment-là que beaucoup de réfugiés sont arrivés de la Transnistrie, que je vous ai montré tout à l'heure. Dans son village de 530 habitants, ça faisait 5 ans qu'ils ne mangeaient pas à leur faim. Et donc, ils ont commencé à fonder une association. Il y avait 4 euros sur le compte. Et puis, pour pouvoir acheter des marchandises à bon marché, et ils ont apporté de la nourriture autour d'eux. Et puis, au bout d'un certain temps, il a eu vent qu'il y avait 8 fillettes qui étaient prêtées pour la prostitution le week-end, ici et là, par un foyer pour enfants. Et donc, je ne vais pas vous dire toute l'histoire, ça va trop long, mais il a trouvé des familles d'accueil pour ses filles. Aujourd'hui, il y a 40 filles qui ont pu trouver déjà une situation qui était dans les mêmes problèmes, plus ou moins, à plusieurs niveaux. Et certaines parmi elles travaillent même au sein de l'organisation sur place. Une fait même la comptabilité, et puis certaines ont pu faire l'université, elles ont vraiment pu avoir recommencé une nouvelle vie. J'ai remarqué que la foi en action sur place, c'est jour après jour, de participer aussi à ce que les gens vivent, de leurs problèmes, de leurs difficultés, d'aller vers eux. Et le reste vient après, vient tout seul, en fait. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi vous faites cela? Le centre pour les personnes âgées, ici, avec la cuisine. Les toilettes, c'est sûrement les plus belles toilettes du village. On nous a même demandé, on ne nous donnait pas la permission si on ne faisait pas des toilettes séparées, filles et garçons. Et puis, il fallait des lavabos dehors, à l'extérieur, alors qu'en fait, il n'y a personne qui en a dans le village. Mais des fois, certains pensent qu'avec un petit bac chiche, on n'a pas besoin de le faire, alors nous, on a préféré le faire. Ces enfants vous remercient infiniment pour les paquets de Noël qui ont été faits, donc ils se retournent exprès. Et puis, c'est une cinquantaine d'enfants. On leur aide à faire les devoirs, puis ils reçoivent un repas par jour. Vladimir nous a parlé de son village d'origine. Il nous a dit sur 6000 habitants, 1000 habitants sont partis à l'étranger pour travailler. Il nous a dit, en Moldavie, il y a 100 000 enfants dans les rues. ou 100 000 enfants qui ne vivent sans les parents. Et c'est un grand problème sur place. Il y a beaucoup à faire et nous, maintenant, pour ces deux prochaines années, c'est spécialement, on veut mettre un poids. On cherche des familles ici en Suisse qui veulent soutenir des familles qui sont dans les pays de l'Est, qui prennent des enfants chez eux pour les soutenir financièrement. Et on a pu aussi découvrir des enfants qui vivaient tout seuls grâce aussi à l'action Paquet de Noël. Parce qu'avec l'action Paquet Noël, on va chez les gens et on a une raison d'y aller. Autrement, on n'aurait pas vraiment une raison d'y aller à certains endroits. Et grâce à ça, on a pu découvrir des enfants qui auraient pu peut-être passer entre les gouttes, qui auraient pu peut-être même tomber dans une criminalité, dans la rue, comme on a déjà vu. J'étais très encouragé de voir le résultat ici aussi dans cette famille, Kazatchenko, avec Nikolai et Sinaïda, il est mécanicien. Et puis, il y a Oksana et Viorica qui sont venues chez eux. Elles étaient, il y a 2 ans, elles ne parlaient pas. Elles étaient complètement renfermées sur elles-mêmes. Nous, on va 2 ans après, et puis on va leur apporter des paquets de Noël. Et elles sourient, elles parlent, elles bougent, elles jouent. Et c'est tellement magnifique de voir ça. Svetlana et André, dont André est pasteur. Ça, c'est toute une histoire. Mais avant de vous raconter cette histoire, il faut que je vais d'abord vous lire un passage dans la Bible. Ces 5000 enfants à nourrir, ça paraît impossible. Eh bien, dans la Bible, on peut lire, il y a un passage qu'on peut lire dans Jean 6, 9. Eh bien, c'est que tout le monde était là pour écouter Jésus. Et donc, c'était de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et puis, il y avait une grande foule qui le suivait. Ils avaient vu les miracles qui s'étaient passés, les malades qui ont été guéris. Alors, il s'est assis sur la montagne avec ses disciples et puis toute cette foule. Et puis, bon, le temps passe, les heures passent. Et puis, il commence à faire faim. Et il fallait ensuite donner à manger à toute cette foule. Alors, Jésus dit à Philippe, mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, il a dit ça pour les éprouver, pour savoir, parce que lui, il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe, lui, répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et ils se sont assis, il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Et ils se sont assis, et au nombre de 5 000 hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna de même 2 poissons, autant qu'ils en voulurent. Afin que rien ne se perde, ils ont gardé les corbeilles avec les morceaux qui restaient, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ce qui m'a frappé lors de ce voyage en Moldavie, c'est ce sentiment d'impuissance devant les événements, les enfants qui vont subir le résultat d'une bureaucratie, d'un programme d'État irresponsable. Beaucoup d'enfants vont se retrouver dans la rue, un peu comme les disciples devant l'impuissance de donner à manger à 5000 personnes. Mais pour accomplir ce miracle de la multiplication, il fallait au minimum au départ, quelques pains et quelques poissons. Avec le peu qu'on a donné, Dieu a multiplié. Eh bien, en Moldavie, j'ai vu un autre effet de la multiplication. C'est celle de l'amour et de l'affection qu'on peut donner à un enfant. Ça produit des fruits. Et pour vous, je vous racontais ça, par exemple, ici, dans cette famille d'accueil que j'ai visitée, j'ai discuté avec André. Ils habitent à Simislia. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous avez déjà 7 enfants, et puis vous voulez prendre encore chez vous, Albert, qui a 12 ans, un enfant. Et puis, il nous a dit, eh bien, moi, quand j'avais 4 ans et demi, c'est un couple qui m'a pris en charge. J'ai eu la chance que mes 7 frères et sœurs n'ont pas eu cette chance. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans ce couple. J'ai jamais eu autant d'amour et d'affection de leur part. Et j'ai envie de redonner ça plus loin. Ils ont pris cet enfant chez eux, Albert, et toute la famille comptait les jours jusqu'à ce qu'ils viennent. Ils racontaient que quand Albert jouait avec les autres enfants, Albert se levait, et puis quand il voyait arriver André, ben, il courait, il sautait dans les bras, il serrait très fort pour ne pas le perdre. Il a senti le manque d'affection qu'il avait vécu. C'est une histoire magnifique. Regardez ces enfants, ils ne sont pas tous là. C'est une famille saine. Le papa André est devenu pasteur comme son père. Et pour le village, ça a quand même changé beaucoup de choses. Et il a aussi donné l'exemple. Et beaucoup l'ont suivi et ont aussi pris des enfants chez eux. Et pour moi, c'est ça la multiplication. C'est que l'affection et l'amour que vous pouvez donner à votre prochain autour de vous, eh bien, ça revient en retour. C'est agréable à recevoir un paquet de Noël. Ça fait du bien à celle qui le reçoit. Mais il y a aussi du plaisir à donner, naturellement. Mais en même temps aussi, ça fait valeur d'exemple. Aujourd'hui, il y a sur place, il y a beaucoup d'églises qui font eux-mêmes des paquets de Noël pour les distribuer autour d'elles. Et cette charité est contagieuse, très contagieuse. Et donc, ce n'est pas un simple paquet de Noël, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est intéressant de voir dans Jean 6, 33 à 35, la signification que Jésus donne à ce pain. Il a dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et les disciples lui dirent, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Cette nourriture, c'est la vie. Ça mène la vie. À travers cet amour que André a reçu, il a reçu la vie. Et il l'a donné plus loin. Et nous cherchons surtout des familles chrétiennes pour ces enfants. Non seulement parce qu'ils ne boivent pas d'alcool et que c'est beaucoup plus strict chez elles, mais parce qu'ils ont aussi quelque chose d'autre à apporter. Et ça peut guérir beaucoup de blessures, et nous le savons. Et voici la maman de André, Maria, qui a 82 ans. L'amour qu'elle a donné, eh bien, ça revient en retour. Maintenant, c'est André et sa belle-maman qui l'entretiennent, qui s'occupent d'elle, qui regardent qu'elle ait tout ce qu'elle a besoin. Moi, j'ai rarement vu des mamans à 82 ans, des grands-mamans. Je n'en ai pas beaucoup vu en Moldavie. Elles ne font pas si longtemps en général. Cette action paquet de Noël, c'est la pointe de l'iceberg. Je vous encourage, je vous remercie infiniment de continuer cette action paquet de Noël. Je termine sur cette belle image et puis je vais laisser la parole